Radio Orient présente Pluriel. Pluriel, animé par Loïc Barrière.
Vous êtes bien sur Radio Orient, Pluriel, avec vous François-Xavier de Calonne. L'invité de Pluriel ce soir, Brice Nkonda, conseiller régional en Ile-de-France, conseiller municipal à Gennevilliers, conseiller national à l'UDI. Bonsoir.
Bonsoir François-Xavier de Calonne. Ça fait beaucoup de titres.
Vous allez nous en parler justement. Ouais. Vous vous définissez, Brice Nkonda, comme un citoyen attaché à son pays, à ses valeurs, mais qui pour autant ne ferme pas les yeux sur ce qui ne fonctionne pas. Alors tout simplement, quand et pourquoi avez-vous choisi de vous engager en politique, Brice Nkonda ?
Alors pour tout vous dire, c'est venu très progressivement. Je pense que le déclencheur de mon engagement, c'est vraiment ce qui s'est passé en 2005 avec Ziad Ebouna. Et toutes les banlieues qui se sont embrasées, c'était une époque où je vivais ces difficultés, où il me semblait que effectivement il y avait des contrôles aux faciès abusifs et qu'il y en a toujours, qu'il y avait un vrai malaise et qu'il y a toujours un vrai malaise dans les quartiers et que ce malaise est protéiforme. Les discriminations sont multiples au logement, à l'emploi, au niveau scolaire, au niveau de la culture. Et tout ça fait que j'ai eu envie de m'engager et tout d'abord et pendant plusieurs années au niveau associatif. Et ensuite, après plusieurs années d'engagement associatif, on se dit, on est là, on bouge des trous, on sert de rustine quelque part. Et j'ai voulu m'engager politiquement pour intervenir plus en amont. Donc ça s'est fait progressivement.
Vous aviez quel âge à l'époque, en 2005 ?
En 2005, je venais juste d'avoir mon master en école de commerce, donc j'avais 22-23 ans.
Et c'est ensuite donc que vous avez rejoint des listes politiques ?
Alors ça s'est fait politiquement, mon engagement il date plutôt de 2013-2014 à l'occasion des dernières élections municipales et c'est une décision qu'on a prise avec le groupe qui m'accompagne dans la mesure où on avait un certain nombre de propositions à faire prévaloir qui étaient de gauche comme de droite d'ailleurs et donc on s'était dit que l'échelon le plus pertinent pour justement proposer ces différentes mesures c'était l'échelon municipal.
C'était une liste citoyenne.
C'était une liste citoyenne. Exactement.
Avec des personnalités de droite et de gauche. Vous, vous êtes plutôt de centre droit.
Alors, je suis vraiment du centre. C'est-à-dire que, ouais, je suis vrai. Alors, je fais partie de l'UDI qui effectivement est estampillé comme étant un parti de centre droit. Mais je suis vraiment du centre dans la mesure où je suis capable d'aller chercher des mesures très à gauche ou très à droite si c'est des mesures qui tendent vers l'intérêt général.
Vous soulignez sur votre blog que vous êtes métisse. Le métissage, dites-vous, est une addition, non une dissolution de la richesse culturelle de chaque communauté. C'est important de souligner cela.
Ouais, et je vais mettre ça en lien avec le fait communautaire. Depuis que le monde est monde, les gens se réunissent parce qu'ils ont des choses en commun. Donc c'est quelque chose d'humain, en fait, une communauté. Le communautarisme est une fermeture, mais la communauté est quelque chose d'important. Et dans le métissage, en fait, il n'y a pas de culture métisse, en fait, pour moi. Il y a des cultures qu'il faut prendre dans leur essence, dans leur intégralité. Et c'est cette culture-là qu'il faut partager. Il n'y a pas une culture qui vaut plus que l'autre, mais il faut justement garder un peu l'intégrité d'une culture pour pouvoir la partager. Ça me semble important.
Cette richesse, elle est suffisamment reconnue aujourd'hui en France ?
J'ai envie de dire que c'est la grande richesse de la France. La France est un pays monde, c'est un pays carrefour, déjà géographiquement parlant. Et tous les enfants français viennent de plein d'horizons différents. Donc je pense qu'effectivement, aujourd'hui, on n'a pas encore suffisamment pris la mesure de toutes nos richesses qui nous permettraient d'avoir des ponts, des passerelles avec tous les pays du monde. Et concrètement, on voit que dans le monde associatif, c'est déjà une démarche, des initiatives qui fleurissent dans tous les sens. Mais c'est vrai qu'on n'a pas encore pris la mesure de ce que ça pourrait donner sur le plan politique, économique, etc.
Qu'est-ce qu'elle vous a enseigné, votre expérience au sein du monde associatif ?
Mon expérience au sein du monde associatif, c'est que, en réalité, chaque personne a raison en fonction de son parcours de vie. C'est-à-dire qu'on vienne de la gauche, de la droite, ou de ni l'un ni l'autre. En fait, chaque personne a un parcours, a des amis, a un entourage, a eu des difficultés, a eu ses succès. Et en fait, on peut pas arriver et décréter qu'on a raison sur la tête d'un parcours. Non, ça n'existe pas. Donc c'est important en fait d'écouter, de savoir d'où vient la personne, pour essayer d'extraire à travers le débat contradictoire, quelles sont les mesures qui sont susceptibles d'arranger tout le monde.
Le fameux « et en même temps » d'Emmanuel Macron.
C'est pas le « et en même temps », non. C'est un débat exigeant entre des personnes qui pensent différemment, mais qui ne sont pas sectaires et qui sont capables de s'écouter.
Et la France souffre encore d'un manque de reconnaissance de toutes ses composantes. La France peine à reconnaître tous ses enfants. Ce sont vos mots.
Ce sont mes mots,
aussi.
Ouais.
Et ça se traduit comment aujourd'hui ?
Concrètement, vous prenez un père ou une mère de famille. Quand on commence à dire qu'on aime plus un enfant que l'autre, ça crée toujours des problèmes. Donc au début, il y a un sentiment d'incompréhension, ensuite de gêne, ensuite de colère, et ça peut aller très loin. Et ce que j'ai envie de dire, c'est que la France a vraiment péché par manque de reconnaissance de tous ses enfants, et notamment dans les quartiers.
Ces enfants. À quel moment de son histoire ?
Moi, je pense que c'est depuis plusieurs décennies, c'est depuis notre histoire coloniale, depuis les grandes vagues d'immigration en France. Je pense qu'il y a une situation qui n'a jamais été reconnue. Il y a des Français aujourd'hui qui, enfin depuis plusieurs générations, hein, qui sont nés dans nos villes, dans nos quartiers, et qui n'ont pas été suffisamment reconnus, qui ont été discriminés à certains égards, et que aujourd'hui on en paye le prix. On en paye le prix. Et effectivement, on peut parler de plein de politiques, mais de prime abord, il faut qu'il y ait une reconnaissance de tous les enfants, dans leur diversité et avec leurs qualités respectives.
Alors vous avez vécu cette polémique sur le port du voile, cette polémique qui a démarré après la prise à partie d'une femme voilée lors d'une sortie scolaire. C'était au sein du conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté. Ce n'était bien sûr pas la première controverse liée au voile en France. Cela revient régulièrement. Comment vous avez vécu, vous, ce débat ?
Moi, je le vis très mal parce que on voit très bien qu'il y a des forces qui sont en présence, qui cherchent à polariser le débat et à faire en sorte que la situation s'envenime. Je dirais que premièrement, en fait, le débat sur le voile, le port du voile est légal dans notre pays. Il y a des arrêtés, enfin, le Conseil d'État a cassé certains arrêtés municipaux en disant que c'est légal. On a tranché sur la question de la burqa et du niqab. Pourquoi ? Pour des questions de civilité, parce qu'on ne voyait pas le visage. Pour ce qui est du hijab...
Et de sécurité même.
Et de sécurité. Pour ce qui est du hijab, c'est légal. Donc en fait, on peut pas continuer à avoir une position schizophrène qui consiste à dire que les plus hautes instances de la République, qui sont les garantes de nos valeurs républicaines, donc liberté, égalité, fraternité, notamment liberté, et que ce qui se passe sur le terrain soit en contradiction avec ce qui a été décidé par les plus hautes instances. Donc très clairement, cette dame qui a accompagné son enfant, en tout cas la classe même, au conseil régional, elle s'est faite clairement stigmatiser.
Quand le chef de l'État affirme que le port du voile dans l'espace public, hein, les mots sont importants, n'est pas son problème. C'est une réalité, c'est la loi française aujourd'hui.
Alors, ça pose quand même un problème, parce qu'il y a tout d'abord le cadre juridique que je viens d'évoquer. Ensuite, il y a le cadre du débat démocratique, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'à un instant donné l'état de la loi est ce qu'il est que la loi ne peut pas évoluer par le débat démocratique. Le problème qu'on a par rapport à ce débat, c'est que les premières personnes concernées ne sont pas invitées, c'est-à-dire que les femmes qui portent le voile ne sont pas invitées sur les plateaux de télé, ou quand elles le sont, elles sont minoritaires et on assiste à un tribunal médiatique. Donc moi, je trouve intéressant, et je reviens à ce que je disais tout à l'heure, c'est que il faut inviter les personnes qui vivent la situation. Ça me paraît déjà le béaba. Pourquoi ? Parce qu'autrement, on a des femmes qui sont déshumanisées, qui sont réduites à leur voile, alors qu'elles ont des choses à dire. Moi, personnellement, à Gennevilliers, il y a pas mal de femmes qui ont décidé, qui ont fait le choix de porter le voile. Quand je parle avec elles, elles n'ont pas l'air d'être soumises. Elles n'ont pas l'air d'être soumises du tout. Et dans certains cas, le mari ne veut pas que leur femme porte le voile, mais elles l'ont décidé à titre personnel. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de femmes qui sont obligées par leur mari ou par leur famille à porter le voile. Je ne dis pas que ça n'existe pas. Dans chaque collectivité, on peut créer, je ne sais pas, une cellule, un service qui s'occupe d'être à l'écoute des femmes pour lesquelles il y a une obligation de porter le voile. Donc ça, effectivement, il faut pas l'accepter, parce que ça va en contradiction avec nos valeurs de liberté au sein de notre République. Par contre, je pense que vraiment, il y a un problème dans la mesure où les premières personnes concernées ne sont pas invitées à prendre la parole. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'elles le soient.
Lorsque vous discutez, justement, avec ces femmes, notamment de jeunes Villiers, qu'est-ce qu'elles vous disent ? Qu'est-ce qui revient le plus fréquemment dans votre propos ? C'est ce silence médiatique imposé, justement ?
Non, je pense qu'elles en ont marre d'être stigmatisées. Après, ce qu'elles me disent, c'est en fait, quand on approfondit ce débat, il est très intéressant. Parce que ce qui est sous-jacent à tout ça, c'est la liberté de la femme, la liberté de choisir. C'est ça qui est important. Concrètement, on peut pas nier que... et moi, je comprends certaines femmes, surtout occidentales, ou même pas que occidentales, qui sont gênées par d'autres femmes qui portent le voile. Parce que le féminisme, dans sa considération occidentale, s'est développé dans le sens d'une liberté du corps, même une liberté sexuelle. donc qui va plutôt vers le dévoilement qu'un voilement. Donc on peut comprendre qu'aujourd'hui il y a un antagonisme qui est vraiment fort entre un féminisme occidental et un féminisme qui est venu depuis plusieurs années s'ajouter et qui est plus spirituel pour moi, de nature plus spirituelle, parce qu'une femme qui décide de porter le voile, c'est une femme qui se décide de rester vraiment focalisée sur son lien avec sa foi. Donc ça me paraît important. D'ailleurs, à cet égard, l'exemple de la chanteuse Diams est assez intéressant, parce que c'est une rappeuse en fait qui avait un grand succès et qui était dans le showbiz avec tout ce qui est lié avec le showbiz. Mais au final, après un concert où on est adulé par des milliers de personnes, on rentre chez soi, on est tout seul et c'est le gouffre. Et donc au final, elle s'est rendue compte qu'elle n'était pas heureuse et pour se reconstruire, elle a fait un choix qui était radicalement différent, qui est de porter le voile. Donc la question qui se pose, c'est pas d'être d'accord ou pas d'accord avec le voile, mais c'est quel est le sens du féminisme et quel est le sens de la liberté de choix pour ces femmes. Moi je pense effectivement que même si on est dérangé par le port du voile, c'est la liberté de choix qui fonde vraiment la liberté de ces femmes-là. Et moi, ça me paraît important de pouvoir le rappeler. Et la tolérance intervient à ce niveau-là. C'est-à-dire que on est tolérant par rapport à des choses qui nous plaisent pas forcément. Mais il faut pouvoir être tolérant.
Un mot revient souvent dans votre bouche, c'est le mot choix. Et ça, c'est fondamental.
Oui, oui, parce qu'il y a, comme je vous l'ai dit, pour résumer, en fait, il y a l'émancipation de la femme qui est au cœur du sujet, mais elle peut être à la fois physique, mais aussi spirituelle. Elle peut être aussi les deux. Mais ce qui fonde vraiment la liberté, c'est la capacité de choix. Et la personne qui est concernée est la seule à même de dire que voilà, mon chemin d'émancipation, c'est celui-là.
Les sénateurs doivent examiner demain mardi une proposition de loi des Républicains sur la question du port du voile lors des sorties scolaires, justement. Votre position sur le sujet, vous regrettez que les sénateurs en viennent à souhaiter légiférer sur cette question ?
Bah, y a même un sondage qui est sorti qui explique qu'une majeure partie des Français souhaiteraient interdire le port du voile sur l'espace public. Moi, je reviens à ce que je vous disais juste avant, c'est que à un moment, il faut inviter les personnes concernées, il faut avoir un vrai débat, il faut pouvoir accepter, il faut savoir ce que c'est que l'émancipation de la femme, quelles sont les différentes dimensions, je l'ai évoqué, et il faut pouvoir garantir la liberté. Aujourd'hui, je rappelle que le Conseil d'État a cassé des arrêtés municipaux, on voulait interdire le burkini. On est dans une séquence en fait qui dure depuis trop longtemps, où on feuilletonne, on ramène toujours le même sujet, mais au final, on l'a jamais vraiment éclairci. Il n'y a pas de contrat social qui a été établi sur cette base.
Et rappelez la loi de 1905, par exemple, qui est une loi finalement mal connue.
Alors la laïcité, de mon point de vue, parce que chacun à chaque fois a sa vision de la laïcité, pour moi ça n'est qu'un modèle d'organisation qui permet à chacun de vivre selon sa foi ou pas. Mais ça n'est pas plus qu'un modèle d'organisation. Quand je vois par exemple le Rassemblement National qui argue et qui met la laïcité en tant que bouclier d'une civilisation judéo-chrétienne, pour moi c'est pas la bonne approche de la laïcité. La laïcité, c'est ce qui permet à tout le monde de vivre dans la sérénité, de se respecter les uns les autres, d'être tolérant et que chacun puisse vivre sa foi. Donc moi, je pense qu'il faut quand même faire attention. On jette vraiment de l'huile sur le feu avec ce débat. Il revient sans cesse. Je comprends que les gens sont embêtés, mais il faut pouvoir écouter les uns et les autres et pouvoir avoir un débat dans toute la sérénité que ce débat exige.
Et quand le chef de l'État, Emmanuel Macron, plaide pour une société de la vigilance, il faut être unis aussi, dit-il, pour faire bloc contre l'hydre islamiste. Or, ce terme, société de vigilance, a suscité la controverse. Vous l'avez interprété comment, Emmanuel Macron, hein, qui a souligné qu'il ne s'agissait pas, bien entendu, d'entrer dans une société de délation.
D'accord, mais en fait, société de vigilance, il n'y a qu'un pas entre société de vigilance et société de délation. C'est-à-dire que quels sont les signaux, il y a pas mal de signaux qui ont été évoqués notamment par le ministre de l'Intérieur, la barbe, le fait de pas serrer la main à une femme, etc., etc. Maintenant, est-ce que il faut cumuler tous ces signes? Est-ce que c'est qu'un seul signe? Ça dépend aussi des individus qui vont signaler. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont extrêmement sensibles, la moindre alerte va être remontée. Donc moi, je trouve que c'est assez dangereux de s'engouffrer sur ce chemin-là. D'autant que, si vous voulez, notre histoire nous rappelle quand même à des souvenirs qui sont très sombres à ce niveau-là. Moi, je pense au contraire que
Vous ne faites pas de parallèle aujourd'hui entre ce qui s'est passé et la société aujourd'hui.
Non, mais il peut y avoir un glissement. Et moi, plutôt que société de vigilance, je parlerais plutôt de société du discernement. Pour moi, ce qui me semble important aujourd'hui, c'est de pouvoir faire ce discernement qui est important. Aujourd'hui, on a 6 millions de musulmans en France. Si les 6 millions étaient radicalisés, je peux vous dire qu'on serait déjà dans une situation de guerre civile. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il n'y a pas de problème. Oui, il y a des imams qui prêchent la haine. Il y a des personnalités qui veulent faire figurer la religion au-dessus des lois de la République. Ça pose un vrai problème. Je dis pas qu'il n'y a pas de problème. Mais je dis que cette société de la vigilance, à mon avis, elle est bancale. Il faut plutôt une société du discernement. Il faut faire rayonner l'islam des Lumières, pas un islam politique qui veut prendre le dessus. Et le problème qui se pose derrière, c'est qu'avec tous les signalements qu'il y a déjà et qu'il y aura encore plus avec leur société de vigilance, quels sont les effectifs derrière qui pourront traiter les demandes ?
Vous parlez de signalements qui existent aujourd'hui. Vous êtes élu local, vous êtes aussi conseiller régional. Mais en tant qu'élu local à Gennevilliers, vous avez connaissance de personnes qui ont été signalées suite à ce discours ?
Non, j'ai pas connaissance. Et pour moi, ça n'est pas le travail des... Alors, certains élus peuvent considérer le contraire, mais ça n'est pas le travail des élus. C'est le travail des services de renseignement. Aujourd'hui, dans les mosquées ou dans pas mal de lieux où il faut être présent, les renseignements sont présents. Donc ça n'est pas le travail à la fois des habitants et des élus. Après, peut-être qu'un certain nombre de gens peuvent estimer que si, ils peuvent contribuer à signaler les choses, mais je pense qu'on rentre dans une dynamique qui n'est pas bonne et qui peut aller vers un glissement qui n'est pas bon. Et derrière, en plus, on n'aura pas les moyens de traiter l'ensemble des cas qui vont être montés. On a déjà du mal à le faire aujourd'hui.
Plusieurs centaines de personnes se sont retrouvées à Paris hier pour dénoncer l'islamophobie, la stigmatisation des musulmans dans les médias par des responsables politiques. Vous avez vous-même été heurté, hein, vous l'avez dit, par certaines déclarations. Vous n'avez pas participé à cette marche, mais vous la soutenez ?
Oui, je la soutiens pour les raisons que j'ai évoquées. En fait, moi, je considère qu'un morceau de tissu, même si le morceau de tissu veut dire quelque chose, ne doit pas, en fait, ne doit pas occasionner la haine et la division et la séparation. On ne doit pas faire la guerre pour un morceau de tissu, c'est ce qui me paraît le plus fondamental. C'est des êtres humains qui s'adressent à d'autres êtres humains, pour les raisons que j'ai évoquées, parce que quand on dit que le port du voile ne coïncide pas avec les valeurs de la République française. Il faut bien voir que aujourd'hui l'état de notre droit et de nos lois sont le reflet de nos valeurs et que le Conseil d'État a justement cassé des arrêtés parce que on est issu de cette histoire où les religions nous ont fait beaucoup de mal, nous ont fait à la fois du bien, nous ont construites et nous ont fait beaucoup de mal. Donc la loi de 1905 a mis de l'ordre dans tout ça et a replacé chaque chose au bon endroit. Maintenant, j'estime que il faut vraiment être attentif quand on dit que le port du voile n'est pas en coïncidence avec les lois de la République. Ça n'est pas le cas. Et les lois de la République, ce sont l'expression des valeurs de la France.
Brice Nkonda, conseiller régional en Île-de-France, conseiller municipal à Gennevilliers et conseiller national à l'UDI. Vous êtes ce soir l'invité de Pluriel. Nous nous retrouvons dans quelques instants.
Pluriel, animé par Loïc Barrière.
Vous êtes bien sur Radio Orient, Pluriel, deuxième partie. L'invité ce soir, Brice Nkonda, conseiller régional en Île-de-France, conseiller municipal à Gennevilliers, conseiller national à l'UDI. Nous évoquions avant cette pause, cette marche hier à Paris pour dénoncer l'islamophobie et la stigmatisation des musulmans dans les médias et par des responsables politiques. Plusieurs responsables politiques qui craignent l'émergence de listes communautaires lors des prochaines élections municipales. Est-ce que c'est une crainte que vous partagez, le communautarisme, à l'occasion de ces échéances ?
Moi, ce que je crois, c'est qu'il ne faut pas mélanger la religion et la politique. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire de la religion un étendard politique direct. C'est pas une crainte, c'est surtout c'est une conviction personnelle. C'est-à-dire qu'en réalité, chaque personne est porteuse d'un certain nombre de valeurs qui peuvent être effectivement liées à la foi. Donc, il s'agit de prendre l'esprit de la lettre et pas la lettre pour nourrir un programme politique qui peut correspondre dans une certaine partie à nos croyances religieuses, mais qui doit pouvoir rayonner sur tout un tas d'autres sujets, parce que pour une raison qui est toute simple, c'est-à-dire que même les croyants ne peuvent pas se résumer à leur religion. Quand on parle des sujets culturels, de logement, de développement durable, etc. En fait, les valeurs religieuses doivent pouvoir nourrir un engagement, mais ça ne peut pas être l'étendard de mon point de vue. Alors après, aujourd'hui, on a un certain nombre de listes comme l'Union des musulmans de France. On a également Sens commun pour les chrétiens. Donc aujourd'hui, en fait, on peut effectivement avoir des listes et des candidats qui se revendiquent facialement d'une religion. Bon, aujourd'hui, si c'est faisable, c'est que l'état de droit le permet, de toute manière. Mais je pense que ça n'est pas souhaitable. Ça n'est pas souhaitable que, par exemple, aussi que des hommes politiques rentrent dans des lieux de culte pour faire un prêche politique. Ça n'est pas normal. Je pense que chaque chose doit rester à sa place. Il y a effectivement un lien, il y a une interpénétration des sujets, mais il faut savoir laisser chaque chose à sa place, de mon point de vue.
Brice Nkonda, vous étiez candidat aux dernières élections municipales à Gennevilliers. Est-ce que vous vous préparez aujourd'hui pour mars 2020 ?
Oui, je me prépare et je vais très vraisemblablement officialiser ma candidature d'ici la fin de l'année.
Les thèmes qui seront au cœur de la campagne que vous préparez donc à mener, lesquels seront-ils ? Est-ce que la sécurité, par exemple, sera l'un des enjeux de cette élection ?
Oui, il y a beaucoup d'enjeux parce que pour qu'un territoire aille mieux et évolue vers quelque chose de plus positif, de plus porteur, il faut forcément s'attaquer à un certain nombre de sujets. La sécurité en fait partie. La sécurité, moi, ce que je note, Gennevilliers, on est une ville de 47 000 habitants maintenant. Que toutes les villes de plus de 10 000 habitants, enfin toutes, 98% ont une police municipale, nous n'en avons pas. Donc forcément, quand on a beaucoup d'habitants, on a beaucoup plus de voilà d'exactions qui ont lieu sur le territoire, d'incivilité, et qu'à un moment, il faut avoir des agents de la paix qui circulent dans les quartiers, en proximité, qui connaissent les habitants, qui dissuadent les gens de faire n'importe quoi. Et puis, c'est un caractère rassurant. Il s'agit pas d'avoir des cow-boys, mais il faut avoir une police municipale qui soit présente. Donc pour moi, c'est même pas une question idéologique, c'est une question de bon sens, d'ordre public. Et par ailleurs, on sait très bien que la police municipale ne résout pas la cause du problème, c'est la conséquence. Donc quand on parle de dispositifs de sécurité, il faut travailler effectivement la dissuasion, mais il faut aussi travailler la prévention surtout. C'est la prévention, l'accompagnement des familles, des jeunes qui permet d'avoir un travail qui soit satisfaisant. Mais à un instant T, quand quelqu'un est victime de quelque chose, il faut bien qu'une police intervienne.
Les questions liées à l'éducation, Brice Nkonda, vous portez quel regard sur la sectorisation scolaire à Gennevilliers ? Je sais que c'est un sujet qui vous interpelle.
Oui, alors, la sectorisation scolaire, en fait, il faut pouvoir faire en sorte que chaque famille mette son enfant dans l'école qui est la plus à proximité. Donc ça, c'est juste quand une ville se développe comme Gennevilliers, on sait très bien, on fait des projections. Et on sait très bien que sur une zone donnée, à un moment donné, bah, l'école va être saturée. Quand on fait mal les calculs, on amène des familles à amener leur enfant à une école qui est à l'autre bout de la ville. Et quand nos enfants sont dans des écoles différentes, et ben, logistiquement parlant, pour les parents, c'est très difficile. Et donc, il faut pouvoir essayer d'être plus cohérent dans la sectorisation. Mais au-delà de la sectorisation, c'est aussi, j'ai envie de dire, le niveau des écoles sur lequel il faut travailler. Alors, au niveau d'une ville, nous ne sommes pas l'éducation nationale, mais je constate que les écoles publiques dans d'autres villes fonctionnent beaucoup mieux. Donc, il y a sûrement beaucoup de dispositifs à mettre en œuvre pour que le niveau des écoles soit meilleur, parce que je ne connais pas de parents qui ne veulent pas que leur enfant aille dans des écoles qui soient exigeantes.
Quel est le pouvoir du maire sur la politique éducative ?
Alors, le maire a un grand pouvoir sur la politique éducative de mon point de vue, parce que en dehors déjà des solutions supralocales qui relèvent de l'éducation nationale, on peut regretter effectivement que une école soit en réseau d'éducation prioritaire et pas l'autre, et que quelques années plus tard, il y a un jeu de vases communicants, on passe à l'autre, et qu'on sait très bien que dans une école, ça marchait plus ou moins parce qu'on avait les moyens du réseau d'éducation prioritaire, et quand on les retire, et ben c'est plus difficile. Donc, ce jeu de vases communicants de passer d'une école à l'autre, il n'est pas bon. Mais pour ce qui est du ressort d'éducation nationale, on ne peut pas le maîtriser. Le maire, il peut beaucoup travailler sur l'engagement des parents, sur l'extrascolaire, le fait de suivre les enfants, sur le fait de motiver les enfants par rapport à ces vieux comme le monde. Mais un enfant qui se dit, à la fin de l'année, si je travaille bien, je peux avoir telle ou telle récompense, ça marche. Enfin, les parents fonctionnent de cette manière-là, d'une certaine, de tout temps, depuis très longtemps. Donc le maire a beaucoup d'options. Moi, sur Gennevilliers, je suis pour la mise en place d'une école privée. Contrairement à ce qu'on peut penser, pour moi, l'école privée n'est pas réservée qu'aux riches ou aux familles privilégiées. On peut très bien contingenter l'effectif de l'école privée en disant qu'il y a un certain nombre de places qui sont réservées pour les familles modestes. Avec la mairie qui aide ces familles avec un chèque scolarité, on peut trouver les moyens de financer. Je sais que la région, parce qu'on le fait déjà, finance le matériel scolaire, une partie des cantines. Donc il y a...
L'école privée sous contrat.
À une école privée sous contrat où le programme effectivement coïncide avec ce qui se fait dans l'école publique. Et après, il faut veiller effectivement de ne pas vider les écoles publiques de leur tête de classe. Mais après, j'ai envie de dire que la question de la scolarité rejoint celle du logement. C'est-à-dire que dans une zone, quand on a plus de, comme, enfin, c'est le cas à Gennevilliers, on a 64% de logements sociaux. Et quand on écoute le maire actuel, on pourrait monter quasiment jusqu'à 100%. En gros, l'argument, c'est de dire la plupart des gens sont éligibles au logement social parce qu'il y a plusieurs catégories. Il y a le très social PLAI, il y a l'intermédiaire plus et il y a le PLS qui est le logement social plus cher. Et donc, effectivement, quand on prend ces trois catégories, la plupart des ménages sont éligibles au logement social. Ça ne veut pas dire que dans notre ville, il faut 100% de logements sociaux. Donc, c'est pas très sérieux. Il faut vraiment essayer d'atteindre un objectif de mixité sociale. Ça me paraît important. Et cet objectif de mixité sociale, il se fait de différentes manières. Déjà, il y a des habitants qui en ont marre de Gennevilliers, qui en vont partir. Enfin, moi, quand je circule dans Gennevilliers, il y a des gens qui me disent, on en a marre de la politique du maire, donc on va partir. Parce qu'il n'y a pas de sécurité, parce que le niveau des écoles, etc. Donc, ces gens-là, en fait, c'est dommage. On aimerait les retenir, mais ils ont envie de partir. Et puis, il y a des gens qui ont envie de rester malgré tout.
Vous voulez redonner de l'attractivité, c'est ce que
vous nous dites. Oui, il y a beaucoup de choses à faire pour les retenir. Il y a beaucoup de choses à faire. Alors, il y a beaucoup de choses à faire pour les retenir. Mais un autre élément qui est important, c'est que, avec le Grand Paris qui se développe, le prix au mètre carré qui ne cesse d'augmenter, de toute façon, à Gennevilliers, on pourra faire tout ce qu'on veut en termes de politique. Le prix au mètre carré va augmenter pour des raisons qui sont mécaniques. La première des raisons, c'est que avec le Grand Paris Express, on sera à 5-10 minutes de la Défense. La deuxième raison, c'est que nous sommes une ville de première couronne et qu'on dispose encore de foncier. Donc forcément, il y a des gens qui vont être intéressés pour venir sur la ville. Aujourd'hui, le prix au mètre carré à Gennevilliers, il est à 4 500 euros du mètre carré. Pour les pavillons, ça va encore plus loin. Donc il va ne faire qu'augmenter. La question pour moi, c'est comment on fait pour que les Gennevillois anciens puissent rester. Et je pense que l'accession, le levier de l'accession sociale à la propriété est un bon levier.
Pour les locataires, l'encadrement des loyers, vous y êtes favorable? Avec les prix justement qui risquent de grimper, vous avez évoqué le Grand Paris, il y a aussi les JO 2024 qui vont peut-être faire augmenter les prix.
Oui. Alors moi je suis pas pour l'encadrement des loyers, mais c'est une question que je ne mets pas de côté. Si à un moment donné, pour des ménages modestes, on voit qu'il y a une difficulté de ce point de vue-là, je pense que, enfin, c'est pas une. Je suis pour le débat et je suis quelqu'un qui écoute. Donc, si à un moment donné, je me rends compte que ça pose une grande difficulté pour un grand nombre de ménages de la ville, je pense que c'est une question qu'il faut regarder.
Sur les arrêtés anti-expulsion, le maire de Gennevilliers en avait pris un en avril dernier. Attaqué, cet arrêté a été annulé par le tribunal administratif. Est-ce que vous êtes favorable à ce type d'arrêté qui permette à des personnes de rester dans leur logement et de ne pas se retrouver à la rue?
Alors moi, j'ai beaucoup de difficultés avec les expulsions parce que prenons une famille, même si les parents ont dysfonctionné, il y a quand même des enfants et les enfants ne sont responsables de rien. Donc moi, je suis quand même assez réfractaire à ces arrêtés. Alors l'arrêté anti-expulsion, il a été pris, mais il faut savoir que la mairie de Gennevilliers fait des expulsions en dehors de ces périodes. Alors bon, moi concrètement là-dessus, je me suis positionné en conseil municipal. On a dit avec mon groupe qu'il fallait ne pas expulser quand il y avait des enfants.
Vous êtes prononcé donc contre cet arrêté.
Nous pensons qu'il ne faut pas expulser quand il y a des enfants.
La question des transports, Brice Nkonda, cette fameuse ligne 13 du métro qui arriverait, selon Google Maps, cinquième dans le palmarès des transports en commun les plus fréquentés au monde. Qu'est-ce que vous pouvez faire aujourd'hui? Vous êtes aussi conseiller régional, c'est une compétence du conseil régional, la question des transports publics. Quel type d'action vous pouvez mener justement pour désengorger ce type de ligne?
Alors au conseil régional, je suis aussi président de la commission des transports et administrateur d'Île-de-France Mobilité, président de la commission d'investissement d'Île-de-France Mobilité depuis 2 ans. Donc depuis 2 ans, alors je suis déjà un usager de la ligne 13 depuis toujours. Donc j'ai comme tous les habitants de ma ville, d'Asnières, de Clichy, etc., enfin en tout cas les gens qui utilisent la ligne 13, je sais exactement ce qu'ils vivent parce que je prends cette ligne. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que la ligne 13 effectivement est l'une des plus saturées. Parce que il y a eu ces dernières années. Alors moi, j'ai pris connaissance de l'historique et de l'antériorité technique de cette ligne. Et en fait, on a essayé de mettre un système qui s'appelle le système Ouragan, qui était censé fluidifier, mais qui était un désastre. C'était un naufrage industriel. Ça n'a pas marché. Donc aujourd'hui, on se retrouve avec une ligne qui est en heure de pointe, et même en dehors des heures de pointe, parce que même en dehors des heures de pointe la nuit, elle est souvent très chargée, cette ligne. Donc, comment on fait pour améliorer la situation de cette ligne, tout en sachant que le temps industriel de construction des transports n'est pas le même que le temps de, d'attente des usagers qui veulent tout de suite quelque chose qui soit vivable. Alors, c'est la ligne de l'enfer. La ligne 13, donc il y a plusieurs réponses qui vont être apportées et qui vont arriver successivement. La première réponse, c'est le prolongement de la 14 au nord à Saint-Ouen qui devrait décharger, mais notamment la branche qui va côté Saint-Denis. Parce que la branche qui va côté Agnières-Gennevilliers, le fait de prolonger jusqu'à Saint-Ouen, il y aura un impact, mais il sera beaucoup plus faible. La RATP avait donné comme chiffre 25% de désengorgement. Je pense pas qu'on sera à ce stade-là.
Pour être clair, hein, cette ligne se scinde en deux à partir de la station La Fourche. Voilà.
Ah non, ah oui, elle se scinde pas en deux. Elle se rejoint à La Fourche.
Elle se rejoint, voilà.
Alors, pourquoi je dis qu'elle ne se scinde pas en deux? Parce que l'actuel maire Patrice Leclerc fait de la mousse en termes de communication sur le fait qu'il faut débrancher la ligne 13 et qu'il faut faire en sorte que jusqu'à La Fourche la ligne en fait il faudrait construire un nouveau terminus au niveau de La Fourche. Mais en fait ça c'est une option qui a été écartée en 2008 quand le débat a eu lieu, parce que premièrement laquelle des deux branches il fallait vraiment déconnecter. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est de dire qu'il faut faire des travaux pour créer un terminus dans le secteur de La Fourche-Saint-Lazare. Je vous raconte pas l'histoire. C'est impossible de faire les travaux dans ce coin-là. Donc, cette histoire de débranchement, en réalité, n'est pas possible et a été écartée depuis très longtemps et coûte très cher. Alors, la véritable solution, de mon point de vue, pour la ligne 13, c'est de changer le matériel roulant, et c'est ce que nous avons prévu à Île-de-France Mobilité. C'était prévu pour 2032. On a ramené cette date à 2026. Et l'objectif, en fait, c'est d'amener un matériel qui est comme sur la ligne 1 ou la ligne 14, et en continu, ce qu'on appelle des rames boa, comme les serpents. Parce qu'en fait, en prenant ce type de rame, on peut accueillir 20% d'usagers en plus. Donc, en termes de saturation, ça aide. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que moi, j'aimerais qu'on l'automatise comme la ligne 1 et comme la ligne 14, parce que la fréquence est un peu plus importante. Et chaque seconde gagnée sur la ligne 13 est une seconde précieuse.
Vous vous apprêtez à briguer la mairie de Gennevilliers. Oui. Concernant l'accessibilité pour les personnes handicapées, où en est-on aujourd'hui à Gennevilliers et qu'est-ce que le maire pourrait faire?
Alors, en termes d'accessibilité, il faut savoir que les deux lignes que sont les Agnettes et les Courties, donc les deux dernières lignes qui nous concernent nous, en fait, ont été construites à un moment où il y avait déjà ces exigences en termes de normes. Donc, il y a des ascenseurs qui permettent aux personnes qui ont un handicap d'entrer dans le métro. Le problème, après, c'est que quand on arrive dans Paris, en fonction de la station dans laquelle on se trouve, c'est un peu compliqué. Bon, ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que il faut bien travailler à l'aménagement dans la ville, et je pense qu'on a encore beaucoup d'efforts à faire de ce point de vue-là, pour que sur les trottoirs où sont censés passer les piétons et les personnes qui ont un handicap, il n'y ait pas de voiture qui se gare pour ne pas justement perturber le cheminement fluide des personnes qui sont en situation de handicap. Donc je dois dire que l'actuel maire et son équipe ont fait un travail sur ce sujet. Il faudra l'améliorer pour que les personnes qui sont en situation de handicap, notamment en fauteuil roulant, ne soient pas entravées dans leur mobilité.
Vous évoquiez tout à l'heure la question de l'éducation. La secrétaire d'État auprès de la ministre des Solidarités et de la Santé, Christelle Dubos, a visité jeudi dernier la crèche Les Louvresses à Gennevilliers, justement. Sa pédagogie, la musique et l'ouverture aux autres cultures, elle est ainsi présentée dans le quotidien Le Parisien. Quelles sont les spécificités de cette crèche et est-ce que vous souhaitez encourager ce type d'initiative?
Oui, alors déjà premièrement parce que la crèche est le mode de garde le moins onéreux pour les familles. Ça c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que avoir une place en crèche, ça permet aux parents d'aller travailler, et notamment aux mamans, d'avoir plus de temps pour trouver un travail et puis s'insérer professionnellement. Donc ça me paraît très important. De la même manière que je souhaite la création d'une école privée, je pense qu'au niveau des crèches, il faut pouvoir compléter le nombre de berceaux qu'on a dans les crèches publiques par des crèches privées qui soient dans la ville. Moi, je n'ai pas de dogmatisme par rapport au public privé. À partir du moment où on apporte des solutions et que ces solutions soient financièrement intéressantes pour les familles. Et je pense que sur Gennevilliers, effectivement, il faut favoriser dans des territoires comme ma ville où on a justement un gros travail à faire sur l'éveil des enfants ce qui nous aidera beaucoup pour la suite. Il faut vraiment travailler à l'éveil culturel par la musique, par tout un tas de pédagogies qui permettent de faire en sorte que les facultés, les fonctions exécutives des enfants de concentration, de capacité à comprendre les consignes, à être voilà, je pense que c'est vraiment des éléments qui sont fondamentaux sur nos territoires. Et donc toutes les expérimentations, toutes les crèches qui travaillent, et même les écoles qui travaillent de ce point de vue-là, doivent vraiment nous intéresser, et en tout cas ce sera intégré à mon programme.
Un tout autre sujet, la lutte contre les violences conjugales. Un texte a été adopté par l'Assemblée sous l'impulsion du député Les Républicains Aurélien Pradier. Est-ce le rôle d'une municipalité de faire de la prévention sur ces violences? Est-ce que il faut mettre en place des structures pour aider les victimes qui sont parfois obligées de quitter leur domicile?
C'est un sujet qui est très grave et que je connais très bien. Pour moi, en fait, c'est un sujet sur lequel on discute trop, pour le coup. C'est-à-dire que pendant qu'on discute et on met des mois à discuter, et des mois et des années, en fait, on a des femmes qui, tous les jours, vivent dans l'angoisse, se font frapper, sont sous une influence totale de la part d'hommes qui sont de réels tyrans et qui psychologiquement les accaparent. Et que pour moi, en fait, sur ce sujet-là, il faut aller beaucoup plus vite et beaucoup plus fort. Et donc, il faut même une fois, parce qu'il y a des cas qui sont véritablement avérés avec des casiers judiciaires qui sont longs comme le bras. Et pourtant, on a des maris qui sont toujours en liberté.
Alors, donc, mais on agit aussi avec notamment le.
Ouais, mais c'est pas suffisant.
Anti-rapprochement.
Oui.
Il y a des actions qui sont menées.
Ouais, mais je connais beaucoup de cas où ça n'est pas suffisant, malheureusement. Donc oui, il faut qu'à tous les niveaux de collectivité, on puisse être force de proposition. Mais je pense que là, concrètement, il faut pouvoir retirer vraiment l'autorité parentale des pères qui ont un casier et pour lesquels le profil est avéré. Aujourd'hui, on a des gens pour lesquels le profil est avéré, mais qui sont toujours en capacité, parce qu'ils ne sont pas en prison, d'embêter leur ex-femme ou leur conjointe qui sont toujours sur leur emprise, que ce soit sur des sorties d'école alors qu'ils ne sont pas autorisés à venir, etc.
Donc, je pense qu'il y a par exemple, est-ce qu'il y a des structures pour aider ces femmes?
Je parle en général, mais il faut vraiment aller beaucoup plus vite et beaucoup plus fort sur ce sujet-là. Pour moi, il y a deux mesures. La première, c'est de mettre en prison les profils de pères violents qui sont avérés, parce que parfois ils s'attaquent aussi aux enfants. Et le deuxième point, c'est leur retirer l'autorité parentale. Donc ça, c'est de manière générale. À Gennevilliers, effectivement, il y a une association qui s'appelle l'ESCAL qui aide les femmes victimes de violences. Il y a un certain nombre d'appartements qui sont mis à la disposition de ces femmes-là, mais c'est même pas une dizaine. Donc c'est rien. En fait, je veux dire, il faut faire beaucoup plus sur le sujet. Il faut mettre des appartements à disposition. Il faut mettre les moyens pour accompagner ces femmes. Et pour ces maris qui sont des tortionnaires, des graves délinquants, il faut pouvoir les punir de manière plus ferme.
En 30 secondes, Brissen Konda, le maire de Gennevilliers soutient publiquement, régulièrement, le peuple palestinien et les citoyens palestiniens qui sont parfois accueillis d'ailleurs dans sa ville. Est-ce que ce sont des actions que vous saluez en tant qu'élu?
Alors par rapport à la Palestine, j'ai à peu près la même position. C'est-à-dire qu'on est tous pour une solution pacifique, de création à deux États, etc. Alors, en tout cas, la plupart, pas tout le monde. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a, de la part du maire de Gennevilliers actuel, une instrumentalisation de la cause palestinienne. Mais il faut regarder en fait ce qu'on fait nous par rapport aux populations d'origine immigrée à Gennevilliers. Quid de la valorisation de la culture amazigh? La culture berbère. Il y a beaucoup de Gennevillois qui sont issus d'Agadir, Tiznit, etc. Mais le travail culturel n'est pas fait très concrètement sur Gennevilliers.
Pourquoi vous parlez d'instrumentalisation?
Il y a une instrumentalisation parce qu'en fait, on fait des choses pour faire de la communication. Et en fait, le maire de Gennevilliers n'a que très peu d'influence sur ces sujets-là. Donc on élit le maire de Gennevilliers pour qu'il fasse des choses concrètes par rapport à la population qui est présente localement, et notamment pour qu'elle ne se fasse pas discriminer au logement, à l'insertion professionnelle, etc.
C'est un travail de sensibilisation aussi, ce qu'il fait sur cette question-là.
C'est un travail de sensibilisation, mais que peut faire concrètement le maire de Gennevilliers sur cette cause? Donc voilà.
Merci Brice Konda, conseiller régional en Île-de-France, conseiller municipal à Gennevilliers, conseiller national à l'UDI. Vous vous préparez, vous l'avez dit, pour la prochaine campagne municipale. Ce sera en mars prochain. Merci d'être venu ici.
Merci de votre invitation.
À Radio Orient. Vous étiez le bienvenu. Merci à vous, chers auditeurs. Très bonne suite de programme à l'écoute de Radio Orient.
C'était Pluriel, une émission hebdomadaire présentée par Loïc Barrière.